Et voilà, on retrouve donc Florence et on va parler bien-être. Alors déjà, Florence, pour les auditeurs, étant donné que nous ne sommes pas à la télé, est-ce que tu pourrais te présenter, dire un peu qui tu es ?
Eh bien, moi j'ai un parcours de soignante depuis l'âge de 21 ans. J'ai pratiqué le métier d'infirmière pendant 18 ans. Et puis vers l'âge de 30 ans, j'ai commencé une reconversion professionnelle vers la sophrologie.
Tu étais infirmière à domicile ou...
Alors j'ai fait beaucoup de choses. J'aimais la diversité, changer de lieu. J'ai fait du privé, de la clinique, de l'hôpital et du libéral. Et puis ensuite, il y a une vingtaine d'années, je me suis formée en sophrologie à Lyon et j'ai démarré ce travail-là en libéral. Donc rapidement, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Je crois que j'étais plutôt versée dans ce qu'on va dire les soins alternatifs. Et je me suis formée du coup à Lyon, à l'université de médecine en thérapie comportementale et cognitive. Donc un DU qui dure 3 années, assez difficile. Mais derrière, on a vraiment les acquis pour pouvoir aider plus sérieusement les personnes. Et puis là, eh bien, on va dire que depuis une dizaine d'années, je consulte en thérapie cognitive et comportementale avec les apports de la sophrologie qui sont très aidants pour justement aller dans l'axe plus bien-être, mieux-être. Et puis la méditation, évidemment, fait partie de tout ce travail, mais d'abord la pratique personnelle. Et ensuite, à un moment donné, lors de mes premières balades en Chartreuse dans les Entremonts, j'ai vraiment senti cette connexion très forte avec la nature quand on se pose en méditation dans la nature. Et du coup, je me suis dit, mais ça, c'est important d'en faire profiter les personnes qui voudraient venir là. Et du coup, en lien avec l'Office du tourisme, on a mis en place des marches conscientes en Chartreuse. Donc, ce sont des méditations marchées en pleine nature.
Et à la base, pourquoi, quel a été le déclic ? Pourquoi la sophrologie
Alors, je dirais que c'est dans ma pensée, dans mes croyances, c'est un petit peu comme si c'était en moi, l'embryon était là. Et je dirais que vers 15-16 ans, déjà à l'adolescence, j'ai eu des besoins, des envies déjà de me soigner pour les stress d'examen, les choses comme ça, prendre plutôt de l'homéopathie, commencer à faire du yoga, etc. J'ai toujours eu cette envie, ce besoin-là. Et puis, ça s'est renforcé au fur et à mesure des années. Et tout en ne mettant pas forcément de côté l'allopathie, j'ai jamais été intégriste dans mon secteur, mais je pense que l'alliance, comme toute chose, quand on arrive à faire coïncider plusieurs choses, la guérison, la santé, c'est toujours un petit peu mieux. Oui,
on a plus d'effet. Parce qu'à notre époque, on a tellement d'autres alternatives. Tu as cité le yoga, il y a, je sais pas, les bols tibétains, tout ce qu'on veut, il y a des milliards de choses. Donc... comment on sait ce qui nous correspond dans ton cas, la sophrologie par exemple ?
Alors moi je dirais que la meilleure chose à faire, c'est déjà quand même, aujourd'hui tout le monde a un site internet, a priori. Hein, le thérapeute un peu compétent et qui s'installe, il a un site internet, donc c'est déjà d'aller voir son parcours, ses compétences, ses diplômes éventuellement. Il peut ne pas y avoir de diplôme, c'est pas rédhibitoire s'il y a un vrai parcours de pratique et professionnel. Et puis après, une fois qu'on s'est un peu assuré des bases, on peut aller tester, pas avoir peur d'aller tester, de questionner le thérapeute sur son parcours, sur ce qu'il va proposer en soins. Et puis, moi, j'ai l'habitude de dire, faites quand même 4 à 5 séances. C'est vrai que c'est un petit budget, parce que bien souvent, ce n'est pas remboursé, mais ça peut l'être par certaines mutuelles. Mais en même temps, c'est le seul moyen de savoir si on va vraiment... avoir un impact de la méthode et surtout de la personne, parce qu'on va voir quand même une personne qui a des pratiques particulières, mais c'est à travers elle, c'est comme un canal pour ses pratiques. Donc ça, c'est très important qu'il y ait cette alliance thérapeutique, dont on parle beaucoup aujourd'hui en recherche en psychologie, qui se fasse, je dirais presque, peu importe les outils, dès l'instant que c'est efficace et qu'ils sont bien menés et sérieux.
Oui, voilà. Et c'est d'autant plus important de se renseigner avant, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui traînent dans ce genre de milieux qui sont pas recommandables. Alors déjà, observer si elles font réellement du bien ou pas.
C'est ça, il y a le bouche à oreille qui est quand même une porte d'entrée essentielle dans nos métiers. Bon, aujourd'hui, on voit émerger un petit peu les avis sur Google, etc. Pourquoi pas ? Je veux dire, ça peut aider certaines personnes à se repérer. Si tant est qu'il n'y ait pas trop de faux avis, bien évidemment. Mais et puis le test par soi-même. Je pense que dans ces méthodes-là, ces pratiques, je parle de pratique parce que ça doit être expérimenté presque corporellement. C'est-à-dire quel est le ressenti face à un thérapeute, quel est le ressenti quand je fais par exemple une méditation ou de la sophro, ou plutôt j'entends vibrer le son, vous parlez du bol tibétain. Et si ça dégage en moi une sensation un petit peu de mieux-être, de bien-être, bah pourquoi pas continuer un petit peu. Si effectivement je sens qu'à l'intérieur ça génère de l'agacement, des émotions négatives de façon très intense, bon, et bah, il va falloir revoir qu'est-ce qu'on fait avec ça.
Oui, parce que des fois il y a des surprises. Moi j'ai mon fils qui est très très calme, mais vraiment on peut pas imaginer, trop même. Et ben bah, la sophrologie ça le rend hystérique.
Alors, la sophrologie, alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on est sur des pratiques, tout ce qui est méditation, qigong, sophrologie, tai chi, on est sur des pratiques de rééquilibration de l'humeur, des émotions, du psychisme, de l'énergie, diraient les orientaux. Donc, c'est effectivement au départ, la personne va avoir une problématique de montée en énergie. Puisqu'elle va aller en fait explorer un peu le contraire de son état habituel, mais au bout d'un moment, ça se régule. Alors, chose très importante, lorsqu'on débute de la sophro, il faut bien savoir que c'est une question de répétition, de régularité, comme dans la méditation. Aucun effet valable et durable en une ou deux séances. Parce qu'effectivement, les premières séances sont souvent assez complexes, assez difficiles, parce qu'elles nous mettent dans un petit peu dans un autre monde de soi qu'on ne connaît pas. Donc ça fait un peu peur, ça met en insécurité. Mais si on continue, ça va s'équilibrer.
Voilà. Et donc c'est une pratique quotidienne.
L'idéal serait, L'idéal serait. Mais après, on connaît nos vies, c'est difficile. Comme je dis, il n'est pas nécessaire de poser le tapis, la petite bougie, l'encens, etc. Ça peut. L'avantage, je dirais, de la sophrologie, c'est qu'on apprend très rapidement des méthodes dites informelles. C'est-à-dire, on va mettre en place des pratiques informelles dans sa vie quotidienne. Là, je vous parle. Je peux sentir en même temps mes deux pieds bien posés au sol, mes appuis, mes ancrages sur le siège, ma respiration, comment elle se fait. Et ça peut se faire en permanence. Mmh. Voilà, c'est ces petits rappels de je reviens à moi, j'existe, je suis là. Et j'apprends les outils, en sophrologie, on apprend ces petits outils. Et puis, plus on avance dans la pratique de la sophrologie, plus effectivement on va approfondir. Et là, c'est là où on va plus rejoindre la méditation, des choses un petit peu plus profondes. Mais au démarrage, c'est en une dizaine de séances, on a déjà quelques petits outils à utiliser au quotidien, au boulot, chez soi, etc.
Et donc, vendredi dernier, on a parlé marche nordique. Là, c'est marche consciente. C'est quoi la définition ?
Alors, c'est vraiment de la méditation marchée. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Il n'y en a pas une vraiment commune. Dans la méditation, qu'elle soit tibétaine, zen, du Japon ou chinoise, il y a trois axes de méditation. Il y a la méditation dans le mouvement, il y a la méditation allongée, assis, en posture immobile, et il y a la méditation dans la marche. La marche, c'est en marche dans la vie, dans le monde. Hein, c'est ça l'idée. Donc c'est la première méditation à pratiquer en réalité. C'est la plus facile. Tout simplement, c'est la plus simple. Parce que assis, quelle que soit la posture, qu'elle soit en lotus, alors là, pour nous, les occidentaux, c'est juste une torture.
Voilà, je confirme.
Voilà, mais on peut la pratiquer assis sur un siège, il n'y a pas de souci pour ça. C'est quand même le plus difficile. Assis sur un siège entre quatre murs qui nous cloisonnent de l'environnement et de l'énergie de la nature, c'est beaucoup plus difficile. Apprendre à méditer en marchant, c'est le plus simple. C'est un abord, la nature est là, elle est extrêmement puissante, les ancrages sont directs, vous avez éventuellement des petites chaussures, la semelle n'est pas trop épaisse, il n'y a pas de béton sous vos pieds, donc ça va très vite, on est dans l'axe tertiel.
Oui, c'est un peu ce que faisaient les gens avant, ils marchaient énormément, on a perdu ça quand même. Hein. Et est-ce que le fait d'être en chartreuse, c'est une nature assez intense, assez une empreinte spirituelle, ça doit encore intensifier les choses?
Oui, il y a des lieux vraiment en chartreuse qui sont repérables pour un peu qu'on ait cette connexion et puis cette concentration à l'environnement. Parce que tout le monde l'a en réalité, hein, c'est pas juste les personnes qui sont plus ou moins éveillées. C'est l'homme ordinaire, la femme ordinaire peuvent connecter ça. C'est-à-dire, il y a un endroit où je vais sentir que dans mon corps, j'ai plus envie de courir, un autre endroit où j'ai envie de m'asseoir, un autre endroit. Et finalement, c'est assez simple. Les endroits où on a envie de s'asseoir, c'est le dos, contre la montagne, à l'abri du vent, face à une belle vue. Là, oui, on peut s'asseoir et faire une méditation. Les endroits où on a envie de marcher, le besoin d'avancer, c'est souvent des endroits vastes, où on va aller, malgré nous, aller vers une forêt ou un endroit où on sera un petit peu plus à l'abri. Bon, vous voyez, on se reconnecte vraiment avec notre biologie, nos fondamentaux d'être humain, notre côté presque, je dirais, animal, Hein. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'à partir de là, bah, notre cerveau, ça relâche. Ça relâche. Et en fait, on n'a même pas besoin d'y penser à ce que ça relâche. Hein. Ça se fait naturellement.
Et toi, tu es originaire de la Chartreuse ou pas ?
Alors moi, je me dis Rhône-Alpine, Auvergne-Rhône-Alpine, puisque je suis née à Lyon, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait un séjour en Nouvelle-Calédonie qui m'a ouvert d'autres horizons justement spirituels. Le Pacifique, c'est encore d'autres cultures, etc. Et puis ensuite, je suis passée par la Drôme, puis par l'Auvergne, puis par la région de Grenoble et enfin en Chartreuse. Voilà.
Et tu penses rester définitivement ou pas ?
Ah,
par
mystère.
Rapport aux autres régions, tu
mystère,
sais pas.
Où la Terre m'appellera, je dis comme ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, il me semble qu'il y a vraiment des choses à ancrer en Chartreuse, oui, qui sont parce que cette présence. Bon, évidemment, on est tout de suite, on pense à l'abbaye, les moines de Chartreuse, mais c'est pas non plus par hasard s'ils sont venus s'implanter là. Oui,
voilà.
Oui.
Et est-ce que tu fais une différence entre le bien-être et le bonheur ?
Alors, le bonheur n'est pas forcément fait que de bien-être. C'est ça la grande nuance. Hein. C'est-à-dire que le bonheur, c'est ces petits instants, ces petits éclats, ces petits rubis, ces petits diamants dans la vie qui sont... Mais on peut être heureux et dans le bonheur à condition toutefois de les voir, hein, de les reconnaître, d'en avoir conscience de ces petits oui. moments-là. Et la recherche éperdue du bien-être, attention à l'écueil. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, que dans nos vies, il y aura des obstacles. Évidemment que dans nos vies, on va croiser la maladie, la souffrance et la mort. Ce ne peut pas être autre. C'est la condition humaine. Elle est telle que... Donc, l'idée, finalement, du bonheur, c'est aller au-delà. C'est-à-dire que, OK, je traverse des épreuves, mais je les traverse. Alors, on ne va pas dire que je les traverse avec bonheur, hein, ça serait méthode Coué et totalement utopiste. Mais finalement, j'ai trouvé une forme de bonheur dans ma vie, malgré ce que j'ai pu rencontrer. Et ça, c'est vrai qu'on peut, finalement, avec certaines pratiques de bien-être, mais je dirais plus, moi, de mieux-être, on trouve avec certaines de ces pratiques, justement, une voie pour aller vers cette attitude, ce psychisme, cette envie de bonheur. Mais attention, le bonheur n'est pas Disneyland.
Hein. Oh mince, il suffit de prendre son ticket, c'est quand même bien.
Alors, oui Catherine, le ticket pour méditer quasiment tous les jours, pour s'atteler à la tâche de la connaissance de soi et d'être en lien avec soi. Voilà. Mmh. Et s'il y a une tâche qui est belle, c'est sans doute celle-là. Et qui amène du bonheur, c'est celle-là, oui, ça c'est sûr. Parce que ça va émaner. Oui. Il y a quelque chose qui émane. Oui,
oui parce que certains déplorent que le bien-être se soit devenu presque une obligation, surtout avec les nouvelles technologies. Faut être le plus... on doit être heureux, sinon c'est qu'on ne le mérite pas, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour. Et ça, c'est terrible comme pression.
Voilà, ouais. C'est le diktat du bonheur et ce n'est pas du tout la vision qu'en ont les orientaux notamment. Même si elle se déforme dans certains lieux orientaux avec l'Occident qui envahit de sa pensée à un certain moment. Mais non, ce diktat, il n'est pas bon parce que c'est beaucoup de culpabilité derrière. Et ça, c'est de la souffrance.
Voilà.
Donc à partir du moment où on commence à culpabiliser, à ne pas se sentir bien, ben, peut-être que ce n'est pas cette recherche-là du bonheur
oui.
à laquelle on doit accéder.
Mais c'est pas nouveau, hein. En fait, ça date du XVIIIe siècle. Et par exemple, Marx disait que ça serait le nouvel opium du peuple dans quelques temps.
Là, mêler religion, spiritualité et politique, c'est compliqué. Mais je crois qu'on entre dans une ère, on voit comment notamment les religions orientales, les philosophies orientales, parce que ne sont pas à proprement parler des religions, comment elles envahissent petit à petit l'Occident et justement se positionnent en dehors de l'idée qu'on puisse découper l'humain en religieux, politique, corps, tête, esprit, vous voyez et que si on ne prend pas en compte... Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase d'Aragon, qui pour autant était quelqu'un plutôt à gauche, hein, si j'ai bon souvenir, hein, politiquement. Il est temps d'instaurer la religion de l'amour. Et c'est très curieux venant de lui, parce que je pense que c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que la religion de l'amour, elle concerne tout le monde, quelle que soit notre obédience, ou si on n'en a pas. Voilà, on peut aller... Et c'est pas de l'opium, parce que l'opium, c'est une substance extérieure au corps qui est donnée pour déformer la conscience. La méditation, la sophrologie, etc. sont des méthodes qui amènent une conscience du monde et de soi claire. En aucun cas confuse, comme avec les drogues. Donc c'est finalement tout l'inverse qu'on recherche. Voilà.
Et puis les nouvelles technologies, justement, où il faut être sans arrêt en mouvement, tweeter, poster, héberger, partager, suggérer, aimer. Les applications, le self-tracking, ça s'appelle en fait, pour recueillir les données sur le rythme cardiaque, les phases de sommeil, la température corporelle, le nombre de pas, etc. Ça, c'est, tout est devenu quand même super compliqué. Est-ce que tout ça, ça peut vraiment aider ? Est-ce que le bien-être, ça paraît inverse à tout ça finalement ?
Un petit peu, ouais. Ouais. On se dit, c'est comme si deux mondes s'affrontaient. Moi, je dirais que c'est la dernière partie de ce que vous dites, c'est-à-dire le tracking. Alors déjà, si on le transpose en français sans faire une traduction littérale, le tracking de traquer, moi, ça me fait penser à se traquer soi-même.
Oui.
Et effectivement, dans les approches méditatives, Qigong, etc., Sophro, on va se connaître soi-même, on va pas se traquer soi-même. Et on arrivera au même résultat. C'est-à-dire qu'on va connaître, effectivement, à peu près ses pulses minutes cardiaques. On n'a pas besoin d'appareil, on le sent. On le sent à l'intérieur, on peut l'écouter, l'entendre. La respiration, idem, on connaît son rythme, on sait quand ça s'accélère, quand ça diminue, etc., etc. Et tout ça, on est capable de le faire sans instrument. Hein. Seulement, c'est sûr que financièrement, là, il y a des entreprises derrière tout ça. Il y a un commerce. Hein,
ah mais, oui, mais, voilà. Pour ça, le bien-être, quelque part, c'est aussi beaucoup une question de profit financier. Là, ils ont sorti des applications sur les smartphones où ça nous dit à quelle heure il faut faire un peu de sport, à quelle heure il faut se détendre, à quelle heure il faut faire le ménage.
Mais c'est juste impossible. Hein. C'est juste impossible, ça, parce qu'il n'y a pas d'heure pour faire le ménage en soi. Il n'y a pas d'heure pour faire du sport. C'est le moment où j'ai envie, le besoin, où mon corps appelle. Et puis après, je vais le faire en fonction de ce qui m'est proposé dans la société où je peux aller pour le faire.
Et est-ce que cette recherche de bien-être, ça ne serait pas dû à la perte d'estime de soi et à la dissolution du lien social, à ton avis ?
Bon, il y a plusieurs facteurs, mais ces deux-là en font partie. Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr que la collectivité amène du bien-être, hein, quand si tant est que l'on puisse vivre en communauté de façon respectueuse, voilà, c'est ça. Mais globalement, je ne vois pas pourquoi les Occidentaux n'en seraient pas capables. Ils l'ont été pendant des millénaires. Et puis l'estime de soi, évidemment, c'est un grand pan de travail. Alors là, pour le coup, plus en psychothérapie, hein, c'est vraiment aujourd'hui peut-être les personnes qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Il y a des taux assez importants en pourcentage, 20-30%, voire plus. Je ne sais pas, mais il doit y avoir des études à ce sujet. Mais c'est sûr que ça, c'est un des premiers facteurs de visite chez le psychologue. Mais je dirais que c'est en même temps la voie ouverte pour aller vers justement le bonheur. C'est-à-dire que si on fait ce travail-là, d'augmenter son estime de soi en se faisant aider, parce que seul ou avec des bouquins ou du tracking, je ne suis pas sûre. Hein. Mais en se faisant aider, après, oui, on peut aller vers une vie nettement plus dans le bonheur. Oui.
Donc, toi, Florence, tu proposes des activités à la fois collectives, donc de marche consciente, et individuelles.
Oui. Alors, la marche consciente, elle peut se faire sur rendez-vous. C'est souvent, alors là, une personne qui vient, c'est personnalisé. Là, c'est un vrai temps de bonheur pour la personne, hein, qu'elle s'offre à elle-même. Ça peut être en couple, deux, trois personnes. Ou sinon, il y a les rendez-vous, on va dire, plus collectifs de marche consciente, de groupe, tous les mercredis cet été à 14h à Entremont-le-Vieux, au désert. Voilà. Donc là, il y a quelques sentiers que j'ai repérés qui sont tout à fait appropriés. Et généralement, je demande que les personnes réservent avant midi et puis on démarre à 14h la marche consciente.
Jusqu'à quelle heure ?
Oh, ben, tout dépend du nombre de personnes dans le groupe. C'est de 1h30 à 2h la marche.
Et est-ce qu'on amène de quoi se restaurer ? Ça se passe comment ?
Pourquoi pas ?
Oui.
Pourquoi pas ? Tout est accueilli avec bonheur, c'est le cas de le dire, surtout quand c'est du bon côté de la vie. Oui, bah le matériel, c'est tout simple. C'est des chaussures légères de marche. Comme on est un petit peu en montagne, bon, ça mène un petit pull au cas où, mais voilà, rien de bien particulier. C'est surtout le corps qui doit être présent.
Oui.
Le corps et l'esprit doivent être bien présents.
Et le cœur aussi ?
C'est ça, tout à fait. La réunion des deux, c'est le cœur, oui. Oui.
Eh ben merci beaucoup Florence. Alors pour ceux qui sont intéressés, je te laisse donner tes coordonnées.
Oui, donc je suis Florence Rata, j'exerce à Entremont-le-Vieux et mes coordonnées sont trouvables sur mon site internet florencerata.com.
Bon. Merci beaucoup.